Donc, dans le prolongement de ce que je vous ai, cette intervention, ce dont je vous ai parlé ce matin, je vais revenir sur un certain nombre de choses sur lesquelles donc je passerai assez vite quand je les ai abordées déjà ce matin. Là, on m'a demandé, un peu dans l'idée de cette intervention, c'est de faire ce qui a été fait lors de la première journée internationale, le séminaire qui avait eu lieu autour d'Unimark à Lisbonne, de présenter l'Unimark dans son environnement normatif et de voir quelles sont les normes qui vont éventuellement avoir des implications sur son évolution. Le panorama est extrêmement vaste, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais quand même aller assez vite. Mais ensuite, les PowerPoints seront, comme ceux de toute la journée, seront de toute façon accessibles en ligne. Donc vous pourrez... ce PowerPoint comporte aussi une bibliographie avec des liens. Donc vous pourrez ensuite approfondir tout à loisir, au besoin, dans vos établissements, quand vous serez de retour dans vos établissements. Donc je vais vous parler essentiellement modélisation, principes internationaux de catalogage, RDA, mais aussi web, parce que on ne peut plus parler maintenant en omettant, en faisant abstraction du contexte de l'Internet. Donc, cette première diapositive, pour vous situer un petit peu justement Unimark et les formats bibliographiques en général dans le contexte dans lequel il se situe. Donc, on peut dire qu'il faut commencer par là. Hein. L'information bibliographique, elle est exprimée par des modèles qui définissent son organisation de manière extrêmement théorique, de manière générale. Donc, c'est ce qu'on appelle les modèles, entre autres, FRBR et FRAD, pour ceux qui sont publiés aujourd'hui. Ces modèles, ensuite, à partir de ces modèles, on va déduire les principes internationaux de catalogage, et vous devez savoir que les principes internationaux de catalogage qui ont été sur lesquels nous travaillons depuis un certain nombre d'années, qui étaient les principes de Paris, ont été révisés, et donc il y a des nouveaux principes fondés sur les FRBR qui ont été publiés. Et à partir de ces principes définissent ensuite vont avoir des influences directes sur les règles de catalogage. Et ces règles de catalogage elles-mêmes vont influer sur les formats, puisque c'est quand on catalogue, eh bien ensuite l'information bibliographique, on l'exprime à travers des formats. Mais les modèles ont aussi une influence moins directe que les règles, mais quand même une influence sur les formats, puisque toutes les entités qui sont définies par ces modèles doivent pouvoir trouver leur place dans les formats. Et là, dans un coin de la diapo, sur un côté latéral, il y a un monde qui n'est... Ça, c'est le monde traditionnel des bibliothèques, des CGB, etc. Et puis, il y a un autre monde qui est celui de l'Internet, qui est fondé, qui utilise des schémas de métadonnées, des fois autres. On a parlé d'Onyx hier, mais il y a aussi d'autres schémas de métadonnées qui ont été aussi évoqués par Philippe Bourdonnais. Et le web sémantique qui s'affirme de plus en plus, c'est l'importance des ontologies. Et il est de plus en plus vital pour l'information bibliographique de pouvoir être exprimée et être présente dans ce monde-là. Donc, quelles sont les passerelles ? Donc, je vais commencer par le début, hein, donc les modèles. Et la modélisation de l'information bibliographique, c'est quelque chose qui est mené par l'IFLA. Donc, l'IFLA a défini une famille de modèles qui sont, dans leur première expression, exprimés selon le formalisme entité-relation. Anila vous en reparlera un petit peu plus de ce que ça signifie dans son intervention où elle présentera le modèle FRAD. Ce sont des modèles donc conceptuels, donc qui donnent une formalisation abstraite du contenu des catalogues et de l'organisation des informations au sein des catalogues. et même à l'intérieur d'une notice. Donc comment l'organisation, l'information bibliographique s'organise entre eux, notice bibliographique, notice d'autorité, qu'est-ce qui relève de l'une, qu'est-ce qui relève de l'autre, mais aussi au sein d'une notice, comment on va organiser les différents attributs ou les exprimer les différentes relations entre des entités. Donc à partir de ces modèles de l'information bibliographique, ils sont exprimés à travers des schémas qui donnent une vision graphique de ce qu'est l'information bibliographique et dont on peut déduire l'organisation des catalogues, voire de l'information au sein d'une notice. C'est particulièrement vrai pour FRAD et les notices d'autorité. Donc cette famille de modèles, eh bien, c'est la famille des modèles FR quelque chose. Donc, premier modèle paru, c'est le modèle FRBR, qui continue d'être un petit peu le modèle maître, qui donc s'applique essentiellement à l'information bibliographique, qui a été publiée en 1998, et où on parle encore dans le titre de records, donc on a un R à la fin du sigle, on parle de notices. On va voir qu'aujourd'hui, c'est très net avec les deux nouveaux modèles qui ont suivi, on va plus parler de notices, on va parler de données. Et ça justement parce que la perspective a changé depuis 98 et qu'on se place beaucoup plus dans une logique donnée qui est plus celle du web sémantique. Donc, après le modèle FRBR, on a modélisé les données d'autorité. Donc, en 2009, la publication du modèle FRAD. Et en cours de préparation, la modélisation de la relation de sujet qui a donné. Enfin, il y a un premier projet de modèle, FRSAD, FRSAD, qui a été en enquête publique, en enquête internationale en 2009, et qui devrait donc aboutir très prochainement. Alors, comme on va parler tout au long de mon intervention, je ne vais pas cesser de parler du modèle FRBR, un petit rappel forcément extrêmement rapide. Je m'en excuse, mais je sais que l'information, il y en a, les niveaux sont très inégaux dans la connaissance du modèle au sein de l'assistance. Donc, le modèle FRBR est donc un modèle entité-relation, c'est-à-dire qu'il va définir un certain nombre d'entités, donc d'objets qu'on manipule lorsque l'on rédige de l'information bibliographique. Et ces entités vont avoir un certain nombre de caractéristiques, ce qu'on appelle des attributs, lorsqu'on parle modélisation, et on va aussi définir des relations entre ces entités. Alors la grande nouveauté du modèle FRBR par rapport à la pratique, c'est ce qu'on appelle le groupe 1, c'est-à-dire un groupe de 4 entités qui s'applique un produit d'une activité intellectuelle ou artistique. Je vais commencer par le bas, ce qu'on manipule, le plus concret, le plus matériel, c'est ce qu'on appelle le document ou l'item. Et lorsque vous êtes en train de cataloguer, vous avez toujours un exemplaire en main. C'est un item ou un document à partir duquel vous allez déduire un certain nombre de caractéristiques qui vont vous permettre de définir, de décrire l'édition complète, ce qui a été publié par un éditeur. C'est ce qu'on appelle la manifestation au niveau, quand on parle FRBR. Et donc, la description bibliographique s'applique, correspond à l'entité manifestation. Cette édition, cette manifestation que vous décrivez, elle a un contenu, et son contenu, c'est peut être un texte, ça peut être une œuvre musicale, etc. Et cette œuvre, elle se présente sous une certaine forme, dans une langue, interprétée par tel ou tel chef d'orchestre, par tel ou tel artiste, si c'est une œuvre musicale, par exemple. Là, donc, il y a bien une œuvre qui est le niveau le plus abstrait, mais cette œuvre, elle prend une forme particulière, ce qu'on appelle le niveau de l'expression. Et c'est cette entité qui est la plus nouvelle et souvent la plus difficile un petit peu à percevoir quand on commence à aborder le modèle FRBR. Et donc ces entités du groupe 1 sont en relation avec des personnes, des collectivités et également des familles qui n'apparaissent pas dans le modèle FRBR d'origine mais qui sont désormais introduites à partir du modèle FRAD et qui ont des relations de responsabilité avec chacune des entités du groupe 1. Donc l'œuvre est créée par une personne. Elle peut être ensuite traduite par une personne, là je suis au niveau de l'expression, ou si j'ai une œuvre musicale interprétée par tel ensemble, tel artiste. Et là je suis donc les responsabilités vis-à-vis de l'expression. Au niveau de la manifestation, ce sont des responsabilités commerciales, donc l'éditeur, le distributeur, l'imprimeur. Et au niveau du document, ce sont les responsabilités vis-à-vis d'un exemplaire particulier, par exemple une reliure prestigieuse, un ancien possesseur, etc. Et enfin, il y a aussi le troisième groupe, ce sont toutes les entités qui peuvent servir de sujet à une œuvre. Donc on a à la fois une œuvre qui peut être toutes les entités du groupe 1 et du groupe 2, hein, plus quatre entités spécifiques qui peuvent être des sujets, et cette fois-ci, d'une œuvre. Ça, c'est le groupe 3. Donc voilà un bref résumé du modèle FRBR dont je pense que vous avez besoin pour avoir comprendre la suite. Donc le modèle FRBR, il est essentiel, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Et il est au centre des travaux sur les catalogues. Donc, avec deux aspects, un aspect pratique, on s'en est tout de suite servi pour améliorer les opaques, en particulier pour pouvoir faire des regroupements par œuvre et donc offrir une meilleure lisibilité des résultats d'une recherche. Mais de plus en plus, ce qui nous intéresse, c'est que cette modélisation va permettre des ouvertures vers les applications du web sémantique et également être un outil d'interopérabilité avec les données produites par d'autres communautés en passant l'interopérabilité passant par la modélisation et la confrontation avec des modèles. Et également, à partir du modèle FRBR, s'est engagée toute une réflexion théorique sur les fonctionnalités des catalogues et les règles de catalogage qui a débouché sur deux grands chantiers dont je vais vous reparler. Donc la révision des principes internationaux de catalogage, donc révision des principes de Paris à la lumière du modèle FRBR et également, je l'ai déjà évoqué ce matin, la révision des règles de catalogage. Alors, une remarque par rapport au modèle FRBR et FRAD, puisque c'est les deux qui sont publiés aujourd'hui, actuellement. Eh bien, les formats, ils vont devoir permettre de prendre en compte les différentes entités définies par les modèles, donc avoir des identités, arriver à dire là, je suis au niveau d'une œuvre, d'une expression. Ils doivent permettre de rendre compte des attributs de ces entités et des relations. Et donc, il y a d'une part une évolution par rapport aux modèles, et encore plus quand ces modèles sont traduits à travers des règles de catalogage. Donc voilà le schéma qu'on peut voir avec les modèles existants. Donc FRBR a eu, par rapport à l'UNIMARC B, je vous ai dit, la description bibliographique, c'est le niveau de la manifestation, et la manifestation, en fait, elle est décrite par l'ISBD. L'UNIMARC B ayant été conçu pour permettre d'encoder de l'ISBD, les évolutions n'ont pas été extrêmement marquantes puisqu'en fait le travail avait déjà été fait. On va voir des évolutions beaucoup plus importantes de FRAD sur UNIMARC A. Je n'en parle pas puisque c'est l'intervention d'Anila qui va suivre la mienne. Et je l'ai déjà évoqué ce matin. Par contre, il y aura toute une réflexion qui reste à mener sur comment rendre compte dans les formats UNIMARC B et UNIMARC A des relations entre les entités du groupe 1 et les entités du groupe 2, c'est-à-dire les responsabilités mises à chaque entité au niveau pertinent dans les deux formats. Pour l'instant, en fait, ce travail-là n'a pas vraiment été fait. Je passe à l'étape suivante, donc après la modélisation, les principes. Également un travail mené par l'IFLA, qui a abouti en 2009, donc l'année dernière, avec la publication des nouveaux principes internationaux de catalogage qui sont issus d'une réflexion menée par l'IFLA, donc pour actualiser les principes de Paris, avec le souci de les actualiser pour prendre en compte le nouvel environnement des catalogues, puisque les principes de Paris datent de 1961, donc étaient faits pour des catalogues sur fiche, dans lequel il n'y avait pas en plus, il n'y avait quasiment que des documents textuels encore à cette époque-là, etc. Donc là, prendre en compte le fait que les catalogues sont multimédia et l'importance croissante de la documentation électronique, et également l'évolution des utilisations du catalogue en fonction de leur présence sur le web. Et ces nouveaux principes qui ont été publiés en 2009, on sent bien que notre environnement bouge, donc les dispositions ont été prises pour permettre leur actualisation régulière, puisque tous les 5 ans, ils doivent être revus par la section de catalogage de l'IFLA. Donc ça a été un travail qui a été fait par des ateliers régionaux qui se sont déroulés pendant 5 ans. Alors régionaux, dans ce sens qu'à chaque fois c'était une grande région du globe. Il y a eu l'Europe, ensuite il y a eu l'Amérique, et puis il y a eu le Moyen-Orient, il y a eu l'Extrême-Orient, et on a fini par l'Afrique. Et donc, le principe de ces réunions, c'était de définir des principes internationaux de catalogage qui puissent servir de base pour élaborer un code international de catalogage. Donc, pour l'instant, on a les principes qui ont été publiés. Le code international de catalogage n'est pas encore là, mais on le sent se profiler. Je vais vous les présenter donc très très rapidement, ces principes donc élaborés pour des catalogues en ligne couvrant tous les types de ressources. Et grande nouveauté par rapport aux principes de Paris, c'est qu'ils traitent non seulement des notices bibliographiques mais aussi des notices d'autorité et qu'ils prennent en compte tous les points d'accès. Donc pas seulement les points d'accès auteur-titre mais bien les points d'accès par sujet, par élément de la description bibliographique. On est dans des catalogues informatisés, donc à une date de publication, un numéro ISBN, ISSN, etc. Et on utilise toutes les possibilités de l'informatique, la troncature, etc. Ils font référence de manière très forte au modèle FRBR, puisqu'ils vont exprimer les fonctions d'un catalogue à partir, d'une part, des tâches des utilisateurs, qui a été une démarche au cœur de la modélisation FRBR, mais aussi à partir des entités FRBR. Donc, on va vous parler manifestation, expression, œuvre, etc. Ils sont faits aussi donc pour préparer les codes de catalogage, donc ils vont lister les principaux objectifs auxquels doivent répondre les règles de catalogage et donc les qualités des règles de catalogage. Et également, il y a toute une évolution du vocabulaire. On l'a très très bien senti lorsqu'on voit l'évolution des différents projets de principes. On parlait de notices au début, on n'a plus parlé que de données à la fin, on ne parle plus de vedettes, on parle de points d'accès, etc. Alors ce que disent aussi justement ces principes, c'est qu'au niveau de la description pour la description bibliographique, elle correspond à l'entité manifestation et les principes réaffirment le rôle de l'ISBD comme norme de description reconnue au niveau international. Par contre, il est aussi clairement dit qu'une notice peut avoir un catalogage plus ou moins complet en fonction du public qui est desservi par le catalogue, mais que le niveau de complétude doit être indiqué très clairement à l'utilisateur. Grande révolution par rapport au principe de Paris, tous les points d'accès sont désormais sur le même plan, donc l'abandon de la notion de vedette principale et vedette secondaire, on abandonne vedette et on abandonne principale et secondaire, on parle de points d'accès essentiels et supplémentaires, donc obligatoires, facultatifs, contrôlés ou non contrôlés, autorisé, c'est-à-dire construit selon une norme et utilisé comme point d'accès aux notices bibliographiques. Et ces points d'accès autorisés sont contrôlés par des notices d'autorité. Alors, une remarque là-dedans. Eh bien, en fait, les principes n'ont pas vraiment d'incidence sur Unimark, puisque c'est surtout à travers les règles qui vont mettre en œuvre ces principes que les formats vont être directement concernés. Par contre, il faut bien voir que dans le bloc 7XX de l'Unimark bibliographique, eh bien, la notion vedette principale, vedette secondaire, qui structure les zones 700, 701, 702, elle n'a plus qu'une utilité pratique, éventuellement pour quel est le premier point d'accès qu'on veut mettre en tête dans une bibliographie nationale, quand on publie une bibliographie nationale, ou etc. Mais ça ne répond plus à une exigence des principes. Et maintenant, si on passe aux règles de catalogage, alors je vous ai dit, première règle pour la description bibliographique, c'est l'ISBD. Donc l'ISBD consolidé, je vous en ai parlé ce matin, donc préparé par l'IFLA. Je vais passer extrêmement vite puisque je l'ai déjà abordé. Donc l'idée c'était donc de fusionner les différents ISBD spécialisés dans un document unique pour renforcer l'harmonisation des règles communes et focaliser sur les points un petit peu qui étaient spécifiques à un type de ressource. Donc première édition disponible en ligne dans une traduction française aussi d'un ISBD version provisoire, et la version stabilisée est prévue en 2010 et en avril là va commencer, on peut dire mi-avril, on va avoir une enquête internationale sur ce projet de texte stabilisé. Donc, les évolutions à l'ISBD, c'est donc l'harmonisation renforcée entre les différents types de ressources, mais c'est aussi la nécessité de mieux rendre compte qu'on ne le faisait avant de l'articulation entre ce que contient un document et la forme de matériel de publication, et c'est donc cette fameuse zone zéro dont je vous ai parlé ce matin. Donc, je n'en dis pas plus, mais sur cette zone zéro, on l'a bien vu tout à l'heure. Et ceci dit, au-delà de la publication de l'ISBD consolidé, on a aussi toute une réflexion pour aller vers des nouveaux modes d'expression de l'information bibliographique. Et donc, il y a un projet de définir un schéma XML pour l'ISBD en abandonnant la présentation traditionnelle de l'ISBD, qui est quand même, quand vous lisez le texte, toujours maintenant, la première chose qu'on vous présente quasiment, c'est un schéma de ponctuation. Et donc là, se concentrer beaucoup plus sur la définition des éléments de l'information bibliographique, leurs sources et comment est-ce qu'on les transcrit, puisque c'est ça qui, dans un univers informatisé aujourd'hui, est le plus important. Et également, autre projet, mais je reviendrai rapidement dessus aussi à la fin de ma présentation, définir un espace de données pour l'ISBD pour qu'on puisse utiliser justement ces fameux éléments de l'ISBD comme un référentiel lorsqu'on veut exprimer l'information bibliographique en RDF, c'est-à-dire le format du web sémantique. Alors, les relations entre l'Unimark et l'ISBD, elles sont extrêmement étroites, hein, puisque l'Unimark bibliographique est fondée sur l'ISBD et que normalement toute évolution de l'ISBD est répercutée en Unimark bibliographique. Et donc, on l'a bien vu lorsqu'on avait développé l'ISBD ER pour les ressources électroniques. Et là, la nouvelle zone zéro, je vous en ai parlé ce matin, va avoir des conséquences sur l'Unimark. Autre révision des règles de catalogage, mais cette fois-ci hors IFLA, c'est RDA, donc Resource Description Access, Ressources Description et Accès, lorsqu'on le traduit en français, et qui est donc un nouveau code de catalogage qui, lui, est destiné à remplacer les règles de catalogage anglo-américaines. Donc, ce développement a été fait hors IFLA, mais en relation quand même assez étroite avec l'IFLA, puisque bon nombre des animateurs du Joint Steering Committee for Development of RDA sont membres de l'IFLA et de la section de catalogage, ou du moins de la division du contrôle bibliographique. Donc ce nouveau code, normalement, va être publié en juin 2010. Et même si ça reste un code, je ne peux pas dire local, mais disons régional, puisqu'il couvre tous les pays anglo-saxons, il a aussi une importance au niveau international. C'est pour ça que j'en parle, puisqu'il est très, très en excellente position pour devenir le code international de catalogage promu par l'IFLA. Et donc, en ce sens, il nous concerne très directement. Alors, quelques grandes caractéristiques de RDA, c'est d'abord une référence extrêmement étroite au modèle FRBR et FRAD. Toute l'organisation du code de catalogage est faite par référence à ces deux modèles. Donc, on va avoir des chapitres pour dire quels sont les attributs d'une entité. Les attributs de la manifestation, on retrouve grosso modo l'ISBD, les entités, les attributs d'une œuvre, les attributs d'une expression, et également les relations ensuite entre ces entités, relations qui vont se permettre d'exprimer d'une part les points d'accès à la description bibliographique telle qu'on les connaît, mais aussi les relations entre notices d'autorité et les relations entre notices bibliographiques, par exemple, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, alors je continue. Alors, également, ce qui est extrêmement intéressant, d'ailleurs, dans ce code, c'est que chaque règle de catalogage, chaque élément de la description est en relation avec l'entité FRBR ou FRAD à laquelle elle correspond, et également avec les tâches des utilisateurs du catalogue. Donc, on sait à chaque fois à quelle fonction répond un élément de données. Et ceci, c'est tout à fait conforme aux principes internationaux de catalogage. Par ailleurs, RDA se veut être une norme de contenu, c'est-à-dire qu'elle définit des règles complètement détachées des modes d'encodage de l'information et même du rendu, de la façon dont cette information va être affichée ou publiée par le public. Donc, l'ISBD y est traité comme une simple option d'affichage dans une annexe, et de même, RDA n'a pas besoin obligatoirement d'utiliser un format marque pour être exprimé, même si il y a deux annexes pour parler de marque 21 bibliographique et marque 21 d'autorité pour expliquer comment les éléments de RDA sont rendus dans ces deux formats. Également, RDA se situe tout à fait dans le contexte, l'environnement numérique qui est celui des catalogues et de l'information en général aujourd'hui. Donc, les règles abandonnent toute contrainte liée à la présentation des fiches, par exemple la fameuse règle de 3, hein, on donne jusqu'à 3 noms, ou on fait jusqu'à 3 accès, et ensuite, ben, tant pis, c'est un anonyme par excès d'auteur. Ça, c'est complètement abandonné, donc il y en a toujours un qui est obligatoire, et puis après, ben, autant qu'il semble nécessaire pour les utilisateurs du catalogue. Et également, les règles sont conçues pour permettre la récupération automatique des données à partir des ressources numériques ou de leurs métadonnées produites par d'autres communautés. Et il y a entre autres tout un travail qui a été fait de rapprochement avec Onyx pour permettre la récupération d'un certain nombre de données qui seraient fournies directement par les éditeurs. Extrêmement important, RDA vise à faire évoluer la structure des catalogues pour refléter vraiment les entités FRBR et donc le respect du schéma du modèle FRBR. Donc, et ça, c'est pour mieux adapter les catalogues à l'organisation actuelle de l'information numérique avec des bases de données orientées objets, par exemple, et surtout permettre d'intégrer les catalogues au web sémantique. Alors, cette évolution est prévue en deux étapes. Première étape qui commence dès maintenant, peut-on dire, c'est faire évoluer les formats marques et également généraliser l'emploi des notices d'autorité qui sont liées aux notices bibliographiques. Bon, alors, on peut dire que nous, en France, on est plutôt à l'heure, à jour sur ce point, en particulier sur le deuxième point, ce qui n'est pas le cas du tout du côté américain. Mais deuxième scénario, avoir des notices que je mets entre guillemets puisque ça sera plutôt des paquets de données hein, pour chaque entité FRBR avec des liens entre généraliser les liens entre ces données. Alors vis-à-vis de l'UNIMARC, UNIMARC n'est pas en première loge pour RDA puisque le premier format visé c'est Marc 21 puisque on est dans le monde anglo-américain. L'influence donc de RDA sur UNIMARC est plus indirecte, d'une part parce que UNIMARC est avec Marc 21 l'autre grand format international d'échange, donc il faut pouvoir avoir des échanges entre UNIMARC et Marc 21. Et d'autre part, UNIMARC est aussi le format de travail des pays qui pourraient adopter RDA comme code de catalogage. Donc UNIMARC doit pouvoir permettre de rendre compte également de RDA. Alors, il faut quand même se dire que UNIMARC va prendre en compte RDA avec un certain décalage, puisque on va quand même regarder ce qui est fait pour Marc 21, et également un décalage dans le temps, et éventuellement un décalage dans l'analyse des données, puisque j'en ai parlé ce matin avec la zone 0 de l'ISBD, par exemple, il y a peut-être des analyses qui vont être un petit peu différentes, mais compatibles. Donc, si on se place du côté de RDA, RDA applique, fait une référence absolument directe à FRBR et FRAD, et en cela, il est fondé sur les principes internationaux de catalogage qu'il met en œuvre. Il a une relation indirecte avec l'ISBD, quand même. Une relation par contre beaucoup plus forte avec d'une part Marc 21 qui est quand même le schéma d'encodage par excellence pour l'instant encore de RDA, également avec Onyx puisque il va pouvoir récupérer des données d'Onyx et il peut aussi être exprimé dans des schémas XML comme le Dublin Core, Notes et d'autres. Et vous voyez que UNIMARC, il est surtout en relation avec Marc 21 via les conversions. Et les évolutions d'UNIMARC seront un petit peu calquées sur celles de Marc 21. Alors, dernier point que je souhaitais aborder, je vais le faire assez rapidement, c'est comment faire migrer nos informations bibliographiques en UNIMARC vers le web sémantique. Alors, première étape pour aller vers le web sémantique d'un point de vue information bibliographique, c'est utiliser la modélisation orientée objet. Et là, il y a un pas essentiel qui a été franchi avec la formulation du modèle FRBR selon le modèle orienté objet, le formalisme orienté objet. Et ceci obtenu par un rapprochement avec le modèle CIDOC-CRM. Et donc là, on a d'une part une compatibilité avec un modèle beaucoup plus générique et extrêmement puissant qui va nous permettre d'avoir des échanges avec l'information provenant des musées en particulier. Et donc, FRBRO va nous permettre d'exprimer d'une part, trois choses. En fait, exprimer les données bibliographiques et d'autorité produites par les bibliothèques dans un formalisme riche et indépendant des formats, pouvoir aller vers le web sémantique et également pouvoir s'intégrer dans des et être relié à des données qui sont formalisées de manière complètement différente, mais via la modélisation orientée objet, pouvoir s'inscrire dans un des aspects, dans un des programmes du web sémantique qui est ce qu'on appelle le linked data, c'est-à-dire se mettre en relation avec des données venant de d'autres communautés. Autre initiative qui est également via l'IFLA, qui est de pouvoir exprimer en RDF, donc RDF, le Resource Description Framework, qui est un modèle d'expression des informations qui est la base du web sémantique et qui repose sur, entre autres, l'utilisation de l'URI pour désigner toutes les entités intellectuelles, on peut dire, conceptuelles, par lesquelles on va désigner chaque élément d'information. Et donc pour ça, il y a tout un travail qui a été fait de définition d'espace de nom pour les normes de l'IFLA. Ça couvre les modèles FRBR, bientôt FRAD, l'ISBD, et pourquoi pas l'UNIMARC si le PUC et si le PUC est partant. Donc également autre projet qui se greffe sur le projet d'un schéma XML pour l'ISBD, c'est de passer directement d'un schéma XML à un schéma RDF pour l'ISBD. Et dernier point, c'est une initiative britannique dont on a beaucoup parlé lors du dernier congrès d'IFLA à Milan, qui en fait est un projet pour développer l'interopérabilité entre les métadonnées créées par différentes communautés, donc en particulier les éditeurs, les bibliothèques et le monde de l'éducation, et qui s'appuie sur les entités du groupe 1 et du groupe 2 du modèle FRBR et de leurs relations. Et donc, ce projet vise à mettre en correspondance les concepts définis par les différentes normes afin de pouvoir faire automatiquement des passerelles et avoir au besoin des programmes de transformation, mais automatisés de l'une à l'autre. Et donc, pouvoir avoir une espèce d'ontologie des métadonnées qu'on utilise dans ces domaines-là pour pouvoir les réutiliser de manière automatique en utilisant les outils du web sémantique. Donc ça, c'est un extrait d'une présentation de ce projet qui a été faite donc au congrès de l'IFLA de Milan l'année dernière par un des grands acteurs, Gordon Denzer, qui est un des grands acteurs de ce travail et du travail autour du web sémantique pour l'information bibliographique. Et donc, il a présenté donc les normes qui étaient mises en relation, dont l'UNIMARC, en relation directe avec l'ISBD, mais qui, à travers l'ISBD, peut être en relation avec FRBR, RDA, etc. Le problème, c'est comment l'UNIMARC va se situer dans tout ce travail. Aujourd'hui, donc, on a de plus en plus besoin d'interopérabilité et surtout d'une ouverture sur le web. Et on voit bien qu'au niveau de l'information bibliographique en général, donc les modèles et même les règles ont évolué dans ce sens. Il faut absolument que les formats suivent cette évolution. Et c'est ce qui est fait, entre autres, par un certain nombre d'initiatives. Alors, la compatibilité entre format MARC, le PUC y veille avec MARC 21 quand même. Mais il faut aussi maintenant prévoir, c'est de plus en plus essentiel, de passer vers d'autres schémas de métadonnées en XML, voire les applications du web sémantique et RDF. Alors là, on peut avoir un petit peu de soucis, d'inquiétudes, parce que le programme Unimark de l'IFLA et le PUC ont été sollicités dans le cadre justement de la définition d'espace de nom pour les documents normatifs de l'IFLA et le projet VMF. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse très énergique en faveur de ces deux initiatives. On peut dire que, et un des freins, entre autres pour le projet VMF, c'est la faiblesse de la documentation en ligne sur Unimark, en particulier le format Unimark bibliographique. Et donc pour l'instant, alors que Unimark a été contacté pour être pris en compte par le VMF, et bien il n'y est toujours pas. Et donc, on peut craindre une marginalisation d'Unimark, parce qu'en fait, on voit bien que FRAD et FRBR vont vers le web sémantique via la définition d'espace de nom, et également dans la formalisation orientée objet, pareil avec le CRM. RDA a fait le même travail, l'ISBD a engagé le même travail. Marc 21, c'est davantage via son intégration au vocabulary Metadata Work Framework. L'EDC et MODE, c'est comme eux qui sont en relation directe avec RDA et ont leur propre stratégie vis-à-vis du web sémantique. Et Unimark, on le sent un petit peu isolé par rapport à ça. Et la grande question, c'est ira-t-il ou n'ira-t-il pas ? Donc, personnellement, j'espère que le PUC va se réveiller et que, parce que sinon, il y a un risque de marginalisation du format Unimark. Parce que on a l'impression quand même les membres du PUC sont davantage centrés sur la gestion des données actuelles dans les catalogues traditionnels, je dirais, et que lors des réunions du PUC, il y a des questions qui sont peu ou mal abordées, c'est-à-dire la prise en compte du modèle FRBR, il y a des évolutions à faire, mais également le positionnement vis-à-vis de l'EAD ou d'autres schémas moins adaptés à la description de certains types de ressources. Ce n'est pas Unimark qui a traité tous les types de documents, les manuscrits n'ont pas forcément été traités en Unimark, il y a d'autres formats qui sont mieux adaptés, de même pour les ressources pédagogiques, etc. Donc c'est plutôt les mappings, les correspondances et les relations entre ces schémas de métadonnées qu'il vaut mieux prévoir, et ça passe justement par le VMF et d'autres initiatives. Voilà, je m'excuse d'avoir dû aller un peu vite.